16h-18h.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait, 2 heures de voyage tous les après-midi sur Europe 1, juste pour le plaisir de rêver. Je vous emmènerai tout à l'heure après 17h dans ce pays incroyable, la Bolivie, avec cette ville de La Paz, perchée à 4000 mètres d'altitude, perchée au-dessus d'un canyon incroyable. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes dans une région que je trouve sous-estimée, on en parle trop peu. Et pourtant, c'est un petit joyau français, le Dauphiné. Et nous allons partir précisément dans un hameau qui s'appelle le hameau de la Villardière. Alors, qui, d'après vous, a passé son enfance au château non loin du hameau de la Villardière ? Réfléchissez bien, c'est pas très difficile. Journaliste, baroudeur, à la tête d'un magazine culte depuis 15 ans sur M6, magazine qui s'appelle Enquête Exclusive. Mesdames, messieurs, voici Bernard de la Villardière. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Merci de nous avoir rejoints pour cette grande balade autour de la France et du monde. Pour s'appeler de la Villardière, du nom du hameau tout proche.
On a bataillé ferme.
Comment ça s'est passé?
Bon, je ne sais pas. Je pense que, en fait, mon nom patronymique, c'est Berger de la Villardière. Donc, je pense qu'il y avait un berger dans la famille qui a fait fortune.
Oui.
Ça arrivait à l'époque pour les bergers.
Et comment un berger peut faire fortune ?
Et puis il a acheté une maison qui s'appelait De la Villardière, et il a rejeté le titre de la Villardière. Alors on n'a jamais été anobli, mais c'est dans la famille depuis 4-5 siècles.
Ouais. Donc vous n'êtes pas noble ?
Je suis ce qu'on appelle un faux noble. Il y a un dictionnaire des faux nobles et j'en fais partie.
Et ça se vit bien ?
Très bien.
Alors vous êtes né à Paris, mais vous passiez beaucoup de temps au château, où on m'a raconté qu'il y avait votre tante. C'est la tante qui occupait le château, comment ça se passait ?
Oui, une tante, qui restait célibataire et qui était la dame de ces lieux pendant très très longtemps.
Ouais.
Et nous étions reclus dans les communs parce qu'elle voulait être à ses aises et elle nous aimait bien, mais elle nous trouvait un peu turbulents.
Elle était sympa,
donc
ou pas ?
On regardait le château de loin. Oui, très sympa. Oui, enfin, pas tout à fait de son époque. Elle passait sa vie allongée sur un canapé. Elle faisait 1m75, elle devait peser 36 ou 37 kilos. Donc c'était quelqu'un d'assez impressionnant, mais une très jolie silhouette. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé.
Ouais.
Mais elle vivait en dehors du temps. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit un jour que j'allais faire du journalisme... Elle m'a dit, mon chéri, il n'y a pas de ça dans la famille. Il y avait des banquiers ou des gens qui vivaient de leur fortune à l'époque.
Et vous avez désobéi.
Dans les années 70. J'ai quand même choisi cette voie-là, mais elle est restée très, très aimante et très proche de nous.
Qu'est-ce que vous faisiez de vos journées là-bas quand vous
êtes... dans une vieille pancarte noire,
ouais,
qui nous impressionnait toujours.
La classe.
Ouais, très classe.
Mais c'est marrant, c'est qu'elle occupait tout le château à elle toute seule.
Ouais, ouais. Avec ce qu'on appelait à l'époque ses domestiques. Une cuisinière et un chauffeur. Et
qu'est-ce que vous faisiez de vos vacances là-bas ? Vous étiez occupé à quoi ?
On passait notre vie à la ferme, maintenant au château, chez les Ginets. Et on était très attirés par la ferme, parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, encore au début des années 70, il y avait des chevaux de trait, qui tiraient des charrettes, des tombereaux chargés de pommes de terre. Et on adorait être sur la ridelle du tombeau et de guider les bêtes, guider les chevaux sur les sentiers au retour des champs.
C'est marrant, je vous imaginais pas du tout en train de...
Ouais.
Je vous imaginais pas au champ, je sais pas pourquoi.
Et c'était une famille, et je me souviens qu'il y avait Émile Ginet, qui était une figure du village avec une très jolie moustache à la gauloise, qui nous racontait sa guerre de 14-18.
Ouais.
Et au retour de la guerre de 14-18, il a eu le droit d'aller au théâtre à Paris. Et c'est la seule fois où il a séjourné à Paris. Et donc, il nous racontait comment il a été au paradis, au théâtre à Paris. Et c'était un homme, quand il est mort, il y a déjà une trentaine d'années, j'ai vraiment une grande tristesse parce qu'il a représenté beaucoup pour moi.
Alors, on a vu dans votre parcours, dans votre émission, que vous alliez sur des terrains un peu chauds. J'ai vu dans votre livre « L'homme qui marche » que le moment où vous avez testé à éprouver votre courage, c'était avec des fantômes et un corbillard à l'âge de 13 ans dans cette propriété.
Absolument, dans une grange attenante, il y avait un corbillard qui était tiré par des chevaux, par les chevaux de la ferme justement. Et chaque fois qu'il y avait évidemment un décès, on sortait le corbillard qui était conduit par Henri d'ailleurs, qui était un fermier. et qui vit toujours d'ailleurs, qui est toujours là. Et donc je jouais à m'enfermer dans la grange avec le corbillard qui m'impressionnait beaucoup. J'étais très impressionné par la mort à l'époque, d'autant que le cimetière n'était pas loin. Et très impressionné aussi par le spectacle de ce corbillard qui voilà, se dirigeait vers l'église avec son cercueil à l'arrière. Très beau corbillard qui a disparu. Je ne sais pas où il est passé, mais j'aurais aimé le garder.
Mais vous vous entraîniez à quoi exactement?
À ne pas avoir peur de la mort. Parce que j'avais très peur de la mort.
Il bougeait tout seul, le corbillard, ou pas?
Non, il était là, à l'abandon.
Il n'y avait pas de fantôme autour.
Entre deux enterrements, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de fantôme.
Est-ce que cette région vous a apporté quelque chose qui fait que vous êtes l'homme que vous êtes aujourd'hui?
Oui, forcément.
Quoi, par exemple?
Le goût de l'effort, sans doute, parce que les gens de l'Isère sont des gens qui, comme les Vendéens, ont le goût de l'effort. D'ailleurs, on construit volontiers des usines là-bas. Je crois qu'il y a des usines Hermès dans cette région, dans ce département. Parce que ce sont des gens sérieux, les Isérois. C'est des gens parfois sévères, mais sérieux et travailleurs. À mon époque, dans les années 60-70 encore, il y avait 35 fermiers dans le village. Il n'y en a plus que deux ou trois. Il y avait deux usines. Et d'ailleurs, j'ai connu cette époque où les gens faisaient les 3-8, et donc ils travaillaient le matin à l'usine, et l'après-midi, ils étaient dans les champs. Et donc, on avait plein d'amis dans le village, donc on rencontrait les gens, des adultes, évidemment, avec lesquels on passait nos après-midi, et qui étaient une gentillesse absolue avec nous. Et il y a un grand jeu, c'était de brûler les chaumes aussi, parce qu'à l'époque, on brûlait les chaumes. On considérait que c'était enrichir le sol. Aujourd'hui, on sait que c'est appauvrir les sols que de brûler les chaumes, ça ne se fait plus. Mais à l'époque, c'était un rite qui était très important. Et puis, il y avait aussi le ramassage des pommes de terre. C'était une des rares tâches sur lesquelles on se sentait un peu utile avec mon frère Jean. Et je me souviens d'Henri qui m'a dit un jour, « Oui, tu ramasses les pommes de terre avec nous. » J'avais 12 ans, 13 ans. « Mais quand tu auras 20 ans, tu ne viendras plus. Ramasser les pommes de terre avec nous. » Et quand j'ai eu 17, 18 ou 19 ans, je me suis attaché à continuer d'aller ramasser les pommes de terre de temps en temps.
Et vous y allez encore ou pas?
Bien sûr. Ramasser les pommes de terre, non, il n'y a plus de pommes de terre dans la région, pratiquement plus. En tout cas, voilà, il y a un nouveau fermier qui est un éleveur. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce sont essentiellement des pâtures. Avant, il y avait du maïs, il y avait du tournesol, des patates, du blé, bien évidemment, de l'avoine. Mais cet aspect-là, hélas, disparu.
Alors Bernard de la Villardière, on se retrouve dans un instant pour aller découvrir votre Dauphiné à vous, le Dauphiné de la nature, des montagnes, et entre autres de celle qu'on appelle là-bas le Mont Inaccessible. Vous nous direz si vous l'avez vaincu. À tout de suite.
Et si on partait tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1.
16h-18h.
Et si on partait?
Philippe Googler
sur Europe 1.
Nous voyageons comme chaque jour sur Europe 1 entre 16h et 18h jusqu'à 17h. Nous sommes dans le Dauphiné, une des plus jolies régions de France, avec Bernard de la Villardière, un enfant du pays. Bernard, cette région, elle n'est pas si connue, même si tout le monde a entendu parler de Grenoble, qui est au cœur de cette région. Mais autour, c'est un peu vague, un peu mystérieux. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette région, vous?
La montagne, les paysages, j'ai la chance des endroits à la Frette où on a une vue à la fois sur le Vercors à droite, la Chartreuse à gauche, le massif de Belledonne en face quand le ciel est assez clair. On aperçoit parfois le Mont Blanc, dit-on. Moi, j'y suis jamais parvenu, mais les gens du pays nous assurent qu'on voit le Mont Blanc de temps en temps.
Ça, on le dit de beaucoup d'endroits.
Hein. Ouais.
Alors, il y a une des montagnes dans cette région qui s'appelle le Mont Aiguille, qui est un peu la star du Dauphiné. Elle fait 2087 mètres. Elle a une forme très particulière. Certains disent qu'elle a une silhouette de pyramide renversée. Et c'est un mont très difficile à gravir.
Oui, il y a des voies difficiles. Il y a des voies plus faciles, mais il y a des voies assez difficiles. Ouais.
Au XIIe siècle, on l'appelait la montagne inaccessible. Vous l'avez essayé?
C'est dans le Vercors qu'est né l'alpinisme, d'ailleurs. Ouais. Il y a eu des alpinistes fameux comme Lionel Terray, qui a trouvé la mort, d'ailleurs, là-bas. De Mont-Aiguille, oui, j'ai essayé plusieurs fois, une fois que j'ai abandonné, parce que j'étais sur une vire. Et,
sur une quoi
et, sur une petite terrasse rocheuse, ouais. Les épaules dans le vide, puisque effectivement, comme vous dites, c'est une pyramide renversée. Et j'ai eu très peur, parce que je croyais que j'étais assuré. Et en fait, j'étais assuré, mais mon frère qui était à côté de moi ne l'était pas. Et il s'est écarté de la falaise comme ça, en reculant, et il m'a dit, t'es assuré? Je lui ai dit, oui. Et puis il se recule et puis je m'aperçois qu'il ne l'était pas. Quoi. Il n'avait pas sa corde dans le mousqueton. On est redescendu. Souvent, c'est quelque chose qui me persécute parce qu'il n'était pas très chaud pour partir. Et c'est moi qui l'ai emmené. Et donc, s'il était mort, j'aurais été responsable à vie. Et je repense souvent à ça, parce que c'est une de mes grandes frayeurs rétrospectives.
Ah oui.
On est descendu en rappel, on a demandé au guide qui était avec nous de nous redescendre.
Vous parlez, c'est marrant, c'est étonnant, vous parlez souvent de la mort et des inquiétudes, etc. C'est quelque chose
j'aime bien vivre avec ça, oui.
Vous aimez ça ?
Mon adrénaline. Bah, j'aime bien prendre des risques, donc évidemment, je réfléchis souvent à ça. Il m'est arrivé d'avoir très peur, oui. Mais en fait, c'est comme c'est un peu comme une drogue. Mais en même temps, la vie, c'est aussi la mort, et la mort, c'est la vie. Enfin, oui, ça me fascine. Toutes ces questions me fascinent. Comme les questions religieuses, c'est pour ça que j'aime aussi dans ce pays les monastères qui y sont. Le monastère de Tamier, qui n'est pas loin, au-dessus de Chambéry. Le monastère de la Grande Chartreuse. La vie mystique m'intéresse. Je suis catholique de culture, je ne suis pas pratiquant. Mais la vie mystique m'a toujours intéressé. D'ailleurs, j'ai le projet de faire un grand documentaire sur la prière. Lors de mes vieux jours, quand j'arrêterai de faire le tour du monde et de jouer les producteurs, je me consacrerai à deux ou trois choses essentielles, dont celle-ci. Parce que j'aime bien les chercheurs de Dieu. Ce sont des aventuriers, contrairement à ce qu'on pense. Et quand on cherche Dieu, on frôle aussi la folie. Et je pense que derrière ces monastères, il y a des gens mystiques, il y a des gens très croyants, il y a des gens très équilibrés, mais il y a aussi des gens qui flirtent avec la dépression et la folie. D'ailleurs, concernant la Grande Chartreuse, que je recommande, parce que c'est un endroit très beau, hein, en Chartreuse, très très bel endroit, un site merveilleux. C'est impressionnant, cette Grande Chartreuse. Ça a été créé au XIe siècle, je crois, la règle de Saint-Bruno. Il n'y avait pas de règle, d'ailleurs, au début. Mais alors, c'était à la fois la vie en collectivité et l'isolement dans tes petites cellules en bois, où chaque moine allait se faire chauffer, chercher, couper son bois, se chauffer, etc. Et puis se retrouver deux ou trois fois pour les matines, les complis, etc. Les matines le matin, les complis le soir. Et c'est une vie qui m'a toujours intéressé. Quand j'étais enfant, j'adorais que mes parents m'emmènent à la Grande Chartreuse.
Olivier ?
On peut bien croire qu'ils avaient besoin de boire un petit coup de chartreuse de temps en temps pour accélérer le rythme de la journée quand même.
Oui, la chartreuse, moi j'adore la chartreuse, j'adore. C'est un peu sucré, mais c'est très costaud. Et j'avoue que j'en ai parfois une fiole au fond de mon sac quand je pars en reportage.
Vous avez des élixirs. Ouais.
Pour passer un moment difficile ?
Oui, le soir, de temps en temps, pas mal.
Et plutôt la verte ou la jaune ?
Plutôt la verte, deux, hein. Moi c'est plutôt la verte.
Qui est un peu plus forte d'ailleurs.
Ouais, la verte est plus costaud. Et alors, c'est vrai que c'est un secret bien gardé. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, parce qu'il y a deux moines de la Grande Chartreuse qui sont chargés de la fabrication de cet élixir, de cette liqueur. Et en fait, ils ne circulent jamais dans la même voiture. Parce que s'ils meurent tous les deux, ben le secret se perd.
Ouais. Alors, il y a un personnage fort de cette région que vous aimez beaucoup, vous allez me dire pourquoi, c'est Louis Mandrin, un contrebandier.
Oui, tout à fait. Il s'est révolté contre les percepteurs de l'époque, les fermiers généraux, c'était au 17e, je crois. Et il est originaire de Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, tout près de La Frette. Et il a fait affaire avec des fermiers généraux, puis il avait acheté des ânes en Italie, et puis il a passé les Alpes, puis il a perdu l'essentiel de ses ânes, et il n'a jamais été payé du coup de ce qu'on lui avait commandé, et il a frôlé la misère. Et donc, par esprit de revanche, il s'est retourné contre les fermiers généraux, il a levé une armée de jusqu'à 500 hommes.
C'est une sorte de Robin des Bois
Il était né à Grenoble, c'est un Robin des Bois, absolument.
Ouais.
C'est un Robin des Bois. Enfin bon, il a été aussi accusé de meurtre au tout début. Enfin bon, c'était un brigand, mais c'était un brigand sympathique.
Ouais.
Il y a eu quelques films. Il y a eu Villon, je crois, qui a écrit une chanson sur...
Mais il a mal fini aussi. Hein. C'est pas terrible d'être un Robin des Bois.
Et il a fini roué en place publique à Valence, je crois.
Ah, c'est sympa.
Ouais.
Ouais. On découvre un Bernard de la Verdière étonnant
côté,
dans cette émission.
Le côté breteur, le Compteur. Côté révolté, le côté... voilà.
Je crois que le fil rouge, c'est l'adrénaline, Bernard, hein, même
oui,
chez Mandrin,
ouais.
Effectivement.
Ouais.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Bernard de la Villardière. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches soirs sur M6 à 23h10 pour enquête exclusive. Merci d'être passé nous voir, de nous avoir raconté le Dauphiné à votre façon, votre région de famille. On se retrouve dans un instant avec les histoires savoureuses de Nathalie Hellal, qui se niche dans l'histoire du Dauphiné. A tout de suite sur Europe 1.